Bonjour, bonjour, Yves au micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne saurait déroger à la tradition et qui par conséquent vous rappellera, vous apprendra que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art aussi particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent depuis un sacré moment déjà. Je vous rappellerai, ça je ne le fais pas à chaque fois, mais de temps en temps ça fait plaisir que notre générique est bien évidemment une musique de film, en l'espèce celle d'un film de Blake Edwards tourné en 1962, sorti en 1962. En français, on ne sait trop pourquoi, ça s'appelait Diamant sur canapé. En anglais, Breakfast at Tiffany's, on y voyait Audrey Hepburn, George Pippard, de la musique, bien sûr. Elle était signée du regretté Henry Mancini dans le Moon River, qui obtint un Oscar cette année-là, et bien dans le Moon River, a fait le tour du monde. Ce jour, dans 24 9 secondes, et bien nous allons rester aux États-Unis, mais nous allons nous intéresser à un compositeur bien différent d'Henry Mancini, même si parfois ils ont pu se rencontrer sur leur amour commun du jazz, en l'espèce Quincy Jones, Quincy Delight Jones Jr., dit Quincy Jones, né le 14 mars 1933 à Chicago, Illinois. Alors, Quincy Jones, on va évoquer sa carrière de musicien de film, mais comme beaucoup le savent, elle ne se limite pas à ça. On dirait même l'inverse, en fait. On dirait que c'est un compositeur qui a aussi fait des musiques de film, puisque l'homme a remporté, entre autres, 28 Grammy Awards, une sorte d'équivalent des Oscars pour la musique, et même un Grammy Legend Award en 1992 pour signifier que sa carrière a été absolument exceptionnelle en matière musicale, alors que le garçon a vécu une enfance très difficile, pauvreté, sa maman internée pour une maladie mentale. Bref, l'enfance de Quincy Jones n'a pas été toute rose, et c'est grâce à la musique, en fait, qu'il a réussi à s'en sortir, puisque dès l'âge de 12-13 ans, il montre à l'égard de la musique des dispositions absolument exceptionnelles. Il y a comme ça des dons, un don, ça s'appelle, que ont certaines personnes et pas d'autres, on n'y peut rien. Et du coup, eh bien, très rapidement, à 18 ans, 20 ans, il commence à tourner avec des grands du jazz, excusez du peu, puisqu'on le verra notamment intégrer l'orchestre de Lionel Hampton, on le verra signer des arrangements pour des musiciens comme Sarah Vaughan, Count Basie, etc., Red Charles même, et dans les années 60, il sera même engagé par Dizzy Gillespie. Bref, très rapidement, Quincy Jones fait dans la musique une place assez exceptionnelle, mais on va l'évoquer à nouveau, on va quand même écouter assez rapidement un extrait d'une musique de film. La première qu'il compose le sera en 1964 pour un film de Sidney Lumet qui s'appelait Le Prêteur sur Gage, The Pawnbroker in English. Mais on va écouter un extrait de la bande originale de son film suivant, le film dont il composa ensuite la musique. Le film, il s'appelle Mirage, il est signé d'Edward Mitrick, un nom pour les amateurs de Scrabble, 2 Y, un K, cherchez où. On en écoute un extrait, je vous en dis plus après dans 24 notes secondes.
Thank you.
charisme assez étonnant pour Quincy Jones, plus habitué aux orchestres de jazz. Un extrait de la bande originale de Mirage, un film de 1965 signé Edward Mitrick, et dans les rôles principaux duquel on retrouvait le grand Gregory Peck, grand à tous les sens du terme, et Diane Baker, une actrice qui ne semble pas avoir fait une grande carrière. Mirage était une sorte de suite, ou en tout cas voulait réexploiter le succès d'un film qui, l'année précédente, avait réuni Gregory Peck et Sophia Loren. Ça s'appelait Charade. Bah tiens, la musique était justement signée d'Henry Mancini. Et dans ce film, Charade, on retrouvait deux méchants incarnés par Walter Matthau et George Kennedy. Et les deux méchants de Mirage, eh bien, c'était les mêmes. Bon, apparemment, le film n'a pas eu un succès plus grand, mais c'était Quincy Jones, pardon, eh bien l'occasion de s'exercer à d'autres genres musicaux, même si l'homme, on l'a déjà évoqué avant ce morceau, on le réévoque un petit peu maintenant, a fait preuve d'un éclectisme absolument redoutable, puisque dans les années 60, Quincy Jones s'installe à Paris et il étudie auprès de Nadia Boulanger, la sœur bien connue de Lili Boulanger. C'est même péjoratif de dire, les deux sœurs étaient compositrices, mais Nadia Boulanger est très connue pour avoir été une enseignante émérite. Quincy Jones a étudié auprès d'elle tout en travaillant pour le label d'Eddie Barclay, figurez-vous, et pour des artistes aussi peu connus qu'Henri Salvador, Charles Aznavour et même Jacques Brel. Bref, un homme qui a réussi un éclectisme et qui a vraiment réussi, lui, son séjour parisien. Il y a beaucoup d'artistes américains qui passent par Paris, parfois avec succès, d'autres moins. Pour Quincy Jones, ça a été un très, très grand succès. Ensuite, il est retourné aux États-Unis. Et dans les années 60, à peu près à l'époque où il compose ses premières musiques de films, eh bien, il est arrangeur, là encore, de chanteurs assez peu connus comme Frank Sinatra, Barbara Streisand et même, allez-vous le croire, Nana Mouskouri. Mais oui, bref, un homme absolument éclectique. Ah, j'allais oublier Tony Bennett, si peu connu ici, mais Tony Bennett, c'est le plus grand crooner de tous les temps. À ma connaissance, il est toujours parmi nous. On t'aime, Tony. Un jour, peut-être une émission sur les musiques de films de Tony Bennett, je ne sais trop. En attendant, on va écouter une nouvelle musique de film signée de Quincy Jones. En 1967, l'homme composa deux musiques, enfin quatre ou cinq, mais deux absolument remarquables. Celle d'un film de Norman Jewison, Dans la chaleur de la nuit, où on voyait Sidney Poitier en détective noir enquêter dans une ville du sud raciste américain, un film qui fit une très très forte impression à l'époque, et un autre film qui fit une très très forte impression, eh bien c'est 200 froids in cold blood de Richard Brooks, avec dans les rôles principaux des acteurs très peu connus, Robert Blake et Scott Wilson, mais surtout 200 froids, c'est l'adaptation d'un roman, c'est pas vraiment un roman en fait, de Truman Capote, qui reconstitue à sa manière, un peu romancé, mais en même temps solidement documentaire, un fait divers absolument sanglant, l'assassinat de plusieurs personnes par deux assassins quelque part dans le Kansas en novembre 1959. Et le livre est absolument magistral, justement, dans cette tentative d'associer journalisme et fiction. Et le film de Richard Brooks, eh bien, il est tout aussi magistral. Et on écoute un extrait de sa bande originale signée Quincy Jones dans 24 notes secondes.
Thank you.
La musique ô combien expressive et sinistre de Quincy Jones pour le 200 froid de Richard Booth, tourné en 1967. L'adaptation d'un livre de Truman Capote. Truman Capote, donc, qui avait passé presque un an à enquêter sur ce fait divers sanglant, l'assassinat par deux jeunes dévoyés, enfin jeunes, 36 ans, 33 ans, d'une famille de quatre enfants, le père, la mère, le fils et la fille, quelque part dans le Kansas en novembre 1959. Les deux assassins sont rapidement arrêtés, même s'ils se sont réfugiés au Mexique. Et Truman Capote se passionne pour le sujet. Et il enquête, il interroge les policiers, il interroge les assassins. Il consacre un an, à cette recherche. Et il assistera même à la pendaison le 14 avril 1965, 6 ans après leur forfait, à la pendaison des deux criminels quelque part dans le Kansas. Et ensuite, eh bien, il fera paraître d'abord sous forme de feuilleton dans le New Yorker, puis ensuite en livre, De sang-froid, qui eut un très très grand succès et qui posa les bases en fait du journalisme, on va dire, embarqué, c'est-à-dire une enquête totalement approfondie. Je pense qu'on n'a pas fait mieux depuis. Et Richard Brooks, dans les pas de Truman Capote, eh bien, lui aussi se soucia de l'authenticité de son histoire, en noir et blanc pour éviter toute interférence. Il choisit les acteurs pour leur ressemblance physique avec les personnages. Parfois, il y avait des non-professionnels. Et c'est un exploit presque macabre, en fait, l'assassinat de la famille a été tourné dans la maison même où a eu lieu l'assassinat. Bref, un film tout à fait saisissant avec, à ma souvenance, assez peu de musique pour un film de plus de 2 heures, mais ma foi, elle est bien placée. Et le film, lui, il est absolument à voir. Et on va enchaîner très rapidement sur une musique pour un film beaucoup plus allègre. Ça nous changera de cette atmosphère sinistre. Un film tourné en 1969 par Peter Collinson. En anglais, ça s'appelle The Italian Job, puisque ça se passe en Italie. En français, ça s'appelle L'Orsebar, puisque ça raconte le cambriolage très audacieux d'un convoi chargé de lingots d'or. Alors, un film qui ne se prend pas au sérieux, dans les rôles principaux duquel on retrouve Michael Caine, Sir Michael Caine, Noël Coward, un acteur assez peu connu en France, dont c'était le dernier film, mais qui fut une grande vedette aux États-Unis, et Benny Hill, pour ceux qui se souviennent de Benny Hill, dans le rôle de Benny Hill, en fait, avec un feuilleton qui franchissait parfois les limites du grotesque ou de l'obscène, mais ma foi, on est ou pas sensible à l'humour de Benny Hill, ça partage le monde en deux camps. Bref, ce trio était à la commande, et Quincy Jones, pour l'occasion, a composé une musique beaucoup plus allègre que celle que nous venons d'écouter. Je vous en laisse profiter dans 24 notes secondes.
Questi giorni quando vieni il bel sole, la 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 la. On days like these when skies are blue and fields are green, I look around and think about what might have been. And then I hear sweet music float around my head as I recall the many things we left unsaid. It's on days like these that I remember singing songs and drinking wine while your eyes play games with mine. On days like these I wonder what became of you.
Maybe today you're singing songs with someone new. I'd like to think you're walking by those willow trees, remembering the love we knew on days like these. It's on days like these that I remember singing songs and drinking wine while your eyes play games with mine. On days like these, I wonder what became of you. Maybe today you're singing songs with someone new. Questi giorni quando vieni il bel sole. La 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 la.
Eh bien non, ce n'est pas Tony Bennett déjà cité, c'est le regretté Matt Monroe qui mêle l'anglais, un italien peut-être un peu hésitant, dans On Days Like This, une chanson composée par Quincy Jones pour un film de Peter Collinson tourné en 1969, ça s'appelait L'Orse Bar, une comédie qui a eu fait l'objet d'un remake dans les années 2000, je ne sais plus trop, un remake assez lourd. L'argument principal du film, c'était un cas spectaculaire avec des mini, vous savez les petites voitures anglaises, là, des mini, on voyait dans le film. Bref, tout l'esprit des années 60, 67, 68, 69, tout l'esprit des années 60 dans ce film qui ne se prenait pas au sérieux. Les années 60 qui furent pour Quincy Jones une période assez intense, mais les années 70 le furent encore plus, d'abord pour de mauvaises raisons, puisque l'homme fut victime d'une rupture d'anévrisme qui l'arrêta pendant 6 mois. Et puis surtout dans les années 70, sur le tournage de The Wiz, une comédie musicale qui était une réinterprétation du Magicien d'Oz, tournée juste avant-guerre par Judy Garland, il rencontre un petit jeune, déjà relativement connu, qui cherche à faire une carrière solo. Le gars s'appelle Michael J. Je ne me souviens plus de son nom. Ah oui, Michael Jackson. Et avec lui, Quincy Jones va produire 3 albums. Le premier s'appelle Off the Wall. C'est le 5e album de Michael Jones, mais son premier album en tant qu'adulte, dit ma fiche. Je ne sais pas si Michael Jackson a jamais été adulte, mais admettons. Et ensuite, celui-là rencontre un certain succès, mais ce n'est rien par rapport au suivant, Thriller, avec un clip bien connu que la Terre entière a vu, en tout cas la Terre entière qui a l'électricité l'a vu, et qui se vendra à 60 millions d'exemplaires, a priori record inégalé. Et le 3e album que Quincy Jones et Michael Jackson feront ensemble s'appelle Bad, pas mal non plus aussi. Sans jeu de mots, en 1987. Ils ne font que ces 3 albums-là, que, et même un peu déplacé comme préposition. Et ensuite, ils se sépareront. Mais pour Quincy Jones, maintenant, sa fortune est faite et l'homme peut tourner absolument tout ce qu'il veut. Et en parlant de fortune, on va revenir 2-3 ans en arrière pour écouter la bande originale d'un film bien nommé Dollars. Là encore, un film de Richard Brooks. Là encore, une sorte de comédie autour d'un cast. On retrouvait dans les rôles principaux Warren Beatty, Goldie Hawn, bien oublié. Pourtant, ce fut une pétillante blonde de beaucoup de comédies sympas des années 70-80. Et Gerd Frobe, l'allemand de service. Ces trois-là formaient un trio tout à fait jouissif, donc pour une histoire de cast. On écoute un extrait de cette bande originale, Dollars, c'est mieux. Richard Brooks, Quincy Jones, 24 secondes.
When you're smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you. And when you're laughing, when you're laughing, the sun comes shining. But when you're crying, you bring on the rain. Stop your sighing. Just be happy again. Keep on smiling. 'Cause when you're smiling, the whole world smiles with you.
Eh bien, hasard ou pas, on est à nouveau dans l'Easy Listening. Et après Matt Monroe, eh bien, c'est la délicieuse Roberta Flack qui interprète la chanson du film. C'est une figure assez classique, un film de Richard Brooks tourné en 1971. Ça s'appelle toujours Dollars. Vous le trouvez facilement sur Internet, mais je ne devrais pas le dire. Et c'est, ma foi, une comédie très très bienvenue qui, pour Richard Brooks, changeait de film aussi grave que De sang-froid déjà évoqué et d'autres qu'il avait tourné. Même chose pour Warren Beatty qui sortait de Bonnie and Clyde et de À cause d'un assassinat. Deux films là encore assez lourds et, ma foi, bien de temps en temps, on a bien le droit de s'amuser. Non, surtout dans les années 70 qui furent, donc je viens de l'évoquer avant d'écouter cet extrait, eh bien les années de gloire de Quincy Jones. Ensuite, ben, ma foi, il y a, je dirais, plus grand chose à en dire en termes musicaux. Là encore, il continue à composer de manière plus ou moins soutenu jusque dans les années 70. The Wiz, déjà évoqué, de Sidney Lumet, marqua un arrêt d'une 5 ou 6 années. En 1985, on le vit sur 1, 2, 3, 4 films, et ensuite plus rien jusqu'à Kill Bill de Quentin Tarantino. Mais enfin, à ma souvenance, ce n'est pas la musique de Kill Bill que Quincy Jones a composée, c'est Quentin Tarantino qui a utilisé les musiques d'autres, comme il le fait toujours dans ses films, puisque l'homme, a priori, n'aime pas la musique de film. Bref, dans les années 70-80, eh bien la carrière de Quincy Jones connut une forme d'apothéose. Ma foi, l'homme est toujours là et on s'en félicite. Et on va se quitter en écoutant la bande originale d'un film très consensuel. Alors, je me garderai d'en donner mon avis autre que le fait que le film soit très consensuel. Ça s'appelle La couleur pourpre, The Color Purple, un film de Steven Spielberg, d'après un roman d'Alice Walker, une romancière tout à fait estimable. Une histoire qui se déroule dans la communauté noire du sud des États-Unis, quelque part au début du XXe siècle. L'histoire de deux sœurs et de leur beau-père. On y retrouve Whoopi Goldberg, on y retrouve Danny Glover, on y retrouve même Oprah Winfrey, très très connue pour ses talk-shows. Et on y retrouve surtout, j'avais dit que je ne le dirais pas, Steven Spielberg avec son côté mielleux, douceâtre, avec son côté mélo un peu trop prononcé et cette façon de bien faire si typiquement américaine et qu'on déteste, il faut bien le dire. Allez, j'en dis pas plus, j'avais dit que je ne dirais rien. On écoute surtout un extrait de la belle musique composée par Quincy Jones pour The Color Purple dans 24 notes secondes.
Feeling fine.
Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, see you, bye bye, and long vie, Quincy.